Nous reprenons l'étude du Tanya à la page 52, le chapitre 21. Mouazaken, toujours dans le but de montrer qu'un juif, de par son ahava mesutéret, de par son amour caché, aussi loin soit-il du judaïsme, peut donner sa vie pour ne pas transgresser l'interdiction de Avodah Zara, l'interdiction de service étranger, d'idolâtrie. Alors Mouazaken avait expliqué que finalement, prenant conscience de cela, celui pouvait aussi réaliser l'ensemble des 613 commandements avec perfection, parce que justement, réaliser une transgression aussi fine soit-elle, en revenait à réaliser un acte d'idolâtrie. Pour cela, la Mouazaken avait expliqué un tant soit peu l'unité divine. Aussi, dans ce chapitre, la Mouazaken va tout d'abord commencer par donner une définition de ce qu'est le dibour, la parole divine, et pourquoi finalement utiliser ce terme de dibour, qu'est Dieu comme chez l'homme. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 52, le chapitre 21. Et voici, comme nous l'enseigne la Gemara Brachot, la mesure de Dieu, béni soit-il, n'est pas comme la mesure de l'homme de chair et de sang, sous-entendu. C'est-à-dire, chez Adam, qui se met d'aber, dibour, parce que l'homme, lorsqu'il vient prononcer une parole, aré et vel à dibour chez Bépive, ou Mourgash, voici que le souffle de la parole qui émane de sa bouche, sous-entendu, est palpable. Vénéré d'avoir bifnasmo, il semble qu'il s'agisse d'une entité indépendante. Mouvdal ni chorcho, chen eser bechinot anesesh atma, séparé de sa source, de la source de la parole, que constituent les 10 forces et 10 niveaux de l'âme elle-même. C'est-à-dire que chez l'homme, il semble bien que la parole soit séparée totalement de la source qui lui donne naissance, c'est-à-dire des 10 forces de l'âme. C'est-à-dire de ce que constituent le sérel et les midot, l'intellect et les sentiments. Et puisque le dibour, la parole, semble séparée de sa racine, elle semble, cette parole, comme être une metziout, une existence séparée, indépendante, bien que, a priori, lorsque cette parole se trouve dans sa source, c'est-à-dire au niveau des 10 forces de l'âme, elle semble totalement annulée à sa source. Et donc, vient expliquer le Tzemar Tzedek, puisque d'une façon habituelle, nous nous appuyons sur le verset du Nar, « Mibetsari Echeze Eloka »« De ma chair, je vais voir, je vais comprendre la divinité. » Aussi, nous pourrions, logiquement, légitimement, croire que de la même façon, chez Dieu, la parole, dans son essence, dans sa source, est annulée à sa source, mais lorsqu'elle vient exprimer concrètement la création des mondes, cette parole divine peut être totalement, comme chez l'homme, séparée de sa source et constituée une entité indépendante. Alors à cela, la Mouazaken lui-même vient répondre « Aval, Akadosh, Baoru, En, Diburo, Moufdal, Mimenu, Ibarer, Chazé, Shalom. » Mais chez Dieu, béni soit-il, sa parole n'est pas séparée de lui, béni soit-il, que Dieu nous en préserve. Parce qu'il n'est rien qui soit en dehors de lui. Et il n'est pas une place, il n'est pas un endroit qui soit libre de la présence de Dieu. Comme nous l'enseigne Tikkun Zohar. C'est-à-dire qu'à la différence de l'homme, chez Dieu, la parole divine se trouve toujours au sein de sa racine, c'est-à-dire annulée à sa racine, annulée à sa source. Alors que chez l'homme, cette parole va être une metziout, une entité indépendante. Et donc nous reprenons dans les mots, et la reine en diboro barer et diborenu chazé shalom, c'est pourquoi sa parole de Dieu, béni soit-il, n'est pas comme notre parole que Dieu nous en préserve, sous-entendu de penser une telle chose. Le Tzemar Tzedek explique dans le Oratora que la parole divine, même dans son expression la plus concrète, peut néanmoins être comparée à la parole humaine, mais seulement à la partie la plus profonde de la parole humaine, à la partie de la parole humaine au Evel tel qu'il est annulé totalement dans son Shoresh avant même toute expression. Mais en aucun cas, cette parole divine ne peut être comparée à la parole humaine après que cette parole humaine est prise en tant soit peu une expression concrète, c'est-à-dire après qu'elle se soit exprimée comme une entité indépendante. Et nous reprenons donc dans les mots, que moshe en marshavato, que marshavatenu, que dirtiv, que lo marshavotai marshavoterem, Parce que, de la même façon que sa pensée, le Dieu béni soit-il sous-entendu, n'est pas comme notre pensée, comme cela est écrit sous-entendu dans Yeshaya, parce que mes pensées ne sont pas vos pensées, Uktive, ou encore, il est écrit là-bas, toujours dans le Nar, Ken, Gavro, Derachai, Midarachem, Degomer. De la même façon, mon chemin, ma voix, est plus élevé que votre voix, etc. Et le verset se termine ainsi, ou marchez vos tailles, marchez vos terrem, et mes pensées que vos pensées. Alors, tout simplement, nous pouvons, d'après le pshat, d'après le sens le plus simple, comprendre que, aussi, la parole divine est bien séparée, bien distincte de notre parole. Nous pouvons remarquer que de très nombreuses explications sont données quant au sens à attribuer à ce verset « Kilo marchevotai marchevoterem » parce que mes pensées ne sont pas vos pensées. Entre autres, nous pouvons retenir l'explication de Tzemach qui fait remarquer tout simplement que le terme de « marchevotai » est ici utilisé au singulier, c'est-à-dire que la pensée de Dieu est ici unique pour bien témoigner, pour bien traduire cette notion d'unité divine. Alors qu'en revanche, le terme de marchevotechem est ici utilisé au pluriel pour bien traduire, pour bien souligner la séparation du stade des pensées de l'homme par rapport à l'essence de l'âme. Et c'est ici ce que la Noa Zaken vient souligner, l'annulation de la parole divine à l'essence divine, et de façon contradictoire, l'entité indépendante des différentes paroles de l'homme face à l'essence de l'homme. Le Rabbi Rachab vient souligner qu'au sein du Nar, la distinction entre la pensée de Dieu et la pensée de l'homme est réalisée, la distinction entre la voix de Dieu et la voix de l'homme et les voix de l'homme sont bien aussi soulignées, mais en aucun cas nous voyons marquer dans ces versets la distinction, les différences concrètes qui existent entre la parole divine et la parole humaine. Alors, explique le Rabbi Rachab, c'est justement la question que l'Admor HaZaken vient ici sous-entendre en rapportant ces versets. À savoir, finalement, puisque la parole de l'homme et la parole divine sont si distinctes, pourquoi, sous-entendu, utiliser le terme de dibour à propos de la parole divine, puisqu'elle ne correspond pas du tout à ce concept que l'homme peut avoir de la parole en s'observant lui-même, alors pourquoi utiliser un tel terme, à savoir le terme de dibour, pour la parole divine qui pourtant est si différente de la parole humaine? Alors d'une façon très résumée, nous verrons que l'Admor HaZaken donnera deux raisons à cela. La première d'entre elles, tout simplement, est le fait que le dibour, la parole tant chez l'homme que chez Dieu, vient dévoiler à un autre ce qui est contenu à un stade plus élevé, à savoir ce qui est contenu dans la pensée. Avant de passer dans les mots à cette explication, rappelons toutefois ce que le père du Rabbi, Rabbi Levi Tzrak, nous enseigne quant à ce passage cité par l'Admor HaZaken du Nar, à savoir le père du Rabbi s'étonne du fait que l'Admor HaZaken vienne nous rapporter ce verset du Nar qui vient témoigner de l'éloignement, de la différence concrète de derrière, de chemin, qui existe entre la divinité et le chemin de l'homme. Alors, d'une façon très résumée, le père du Rabbi nous explique que nous aurions pu nous tromper et croire que la pensée chez Dieu est différente de la pensée chez l'homme, c'est-à-dire ce qui appartient à la sphère de Bina est distincte chez l'homme par rapport à Dieu. De la même façon, la sphère de Malchut, c'est-à-dire le dibour de Dieu, est distincte de la sphère de Malchut, c'est-à-dire du dibour de l'homme, mais nous aurions pu nous tromper encore une fois et croire que le chemin intermédiaire entre la pensée et la parole, entre la sphère de Bina et la sphère de Malchut, sont identiques tant chez l'homme que chez Dieu. Alors à cela, l'Admor HaZaken est venu nous préciser, attention, non seulement la pensée est distincte chez l'homme de chez Dieu, non seulement la parole est distincte chez Dieu de l'homme, mais aussi toutes les voies intermédiaires, tout le passage de la sphère de Bina à la sphère de la Malchut est totalement distinct chez Dieu de chez l'homme. Chez Dieu, il y aura une unité constante entre toutes ces sphères intermédiaires et l'essence de Dieu, alors que chez l'homme, il y aura une séparation de l'ensemble de ces sphirotes face à l'essence de l'âme. C'est cela ici que vient nous enseigner l'Admora Zaken. Quoi qu'il en soit, nous reprenons donc l'explication dans les mots, et l'Admora Zaken va donc expliquer pourquoi finalement nous utilisons le même terme chez Dieu que chez l'homme de Dibour. Velo, Nikra, Diburo, Ibarer, Bechem, Dibour, et cela chez Dieu est appelé la parole, parce que Rak, Alder, Machal, simplement, par exemple, sous-entendu pour que nous comprenions que moi chez Dibour, à Tarton, chez Béadam, comme de la même façon que chez l'homme en bas, ou Mégalé, les Chomim, Mach, Ayat, Safoun, Vénélam, Bémarchavato, chez l'homme la parole vient dévoiler à ceux qui entendent, ceux qui écoutent mot à mot, ce qui était caché, ce qui était voilé au préalable au sein de la pensée, car les malades de la même façon en haut, Be'ensob, Aoukou, dans l'essence de Dieu, béni soit-il. Yetziat a or va rayut mimenu ibarer, la sortie de la lumière et de la vitalité de Dieu, béni soit-il, mais à Hélène, elle a guilouille d'un niveau de voilement à un niveau de dévoilement, livroa ou la motte ou la rayutam, afin de créer les mondes et de les faire vivre, nikra bechem dibour. Tout cela, toute cette création est appelée tant de la lumière que de la vitalité, est appelé par le terme de dibour, de parole, parce qu'elle amène vendu un dévoilement à une créature, un dévoilement à un monde inférieur, à une entité, entre guillemets, étrangère à l'essence de Dieu. Parce que, sous-entendu, les créatures se ressemblent par rapport à elles-mêmes comme une entité séparée. Aussi, cette création, tant de la lumière que de la vitalité, revêt le terme de dibour, de parole. Et nous devrions bien comprendre que le terme utilisé ici par Admor HaZaken de or ou de chayout, conformément à son enseignement dans le livre de Torah, ces termes viennent définir pour le or le monde de Sovev Kolalmin et pour la chayout le monde de Memalé Kolalmin. Et donc, tant ce monde de Memalé que de Sovev constitue une création qui permet l'utilisation du terme de dibour parce qu'elle est une révélation, un dévoilement à des créatures inférieures, à des créatures qui se ressentent comme séparées de Dieu. Et nous reprenons dans les mots « V-N-N, Asara, Mahamarot, Sheba-N, Nivra, Olam » et donc ces paroles qui constituent le véhicule de la lumière et de la vitalité constituent les 10 paroles de la création. V-N, Char, Kol HaTorah, Nevi'im, Uktuvim, She'asigu, Nevi'im, Bemare, Nevoatam. Et ce dibour constitue aussi l'ensemble de toute la Torah, des Nevi'im, les prophètes, les hagiographes, c'est-à-dire ce que ces prophètes ont pu saisir par leur vision prophétique. Alors cela aussi s'appelle le dibour, parce qu'il constitue bien un dévoilement pour le monde. Zéharé, et voici que Dibouro Marchavato Gaviarol, sa parole de Dieu et sa pensée, si l'on ose s'exprimer ainsi. Et nous comprenons ici le terme de Kavzachol utilisé par Admor HaZaken, justement pour montrer que BFM, profondément, ce terme n'est pas justifié, si ce n'est que Alderer Machal, comme il l'a précisé au début, simplement pour nous faire comprendre une notion de dévoilement. Alors, donc, cette parole, cette pensée de Dieu, si l'on ose exprimer ainsi, Miyuhadot, Imo, Betachit, sont unifiés avec lui à la perfection, Betachit, Ayrud, avec une unité parfaite, des Ramachal, comme par exemple, Kemo, Diburo, Marchavato, Shaladam, comme la parole et la pensée de l'homme, mais cela avant, sous-entendu, qu'il ne pense, avant qu'il ne parle vraiment. C'est-à-dire, Beodo, Bekoa, Hormato, Besiflo, lorsque cette pensée, lorsque cette parole se trouve encore dans la force de la sagesse, dans la force de l'intellect, au Betchuka, Behemda, Belibo, ou encore sous la forme d'une aspiration, d'un désir profond dans le cœur, dans la profondeur du cœur, Kodem, chez Alta, Mehalev, les Noirs, avant que cela ne vienne s'exprimer du cœur vers le cerveau, les arerba de Brinat Otiot, avant que cela ne vienne s'exprimer, sous-entendu, sous la forme d'un hirour ou d'une pensée aussi furtive dans un niveau de l'être. Parce que chez Az, Alors, Ayuotchot Amarchava Véadibourazé, parce qu'alors, les lettres de la pensée, les lettres de la parole, de cette pensée, de cette parole, Anisharot Mesemdat Vetchukazo, qui émaneraient de cette aspiration, de ce désir ardent, Bekoar Benev, potentiel dans le cœur, ou Miluchadot Sham Betarlit Aïhoud, et qui sont unifiés là-bas, dans la profondeur du cœur, avec une unité parfaite, Beshorsham, dans leur source, Sheen Achorma Vesechel, chez Bémoar, Vesemda ou Tchuka chez Belev, qui sont la sagesse et l'intellect du cerveau et l'aspiration, le désir ardent du cœur. C'est-à-dire que finalement, la pensée divine, la parole divine, même après leur expression concrète, peuvent être comparées à la pensée, à la parole de l'homme lorsqu'elles sont encore dans leur source, sous la forme simplement d'un sentiment avant même qu'il y ait une expression, même sous la forme la plus fine soit-elle, mais avant qu'il n'y ait une expression sous la forme de l'être, aussi fine soit-elle. Et le rabbi précédent demande que nous saisissions bien, que nous approfondissions bien à ces quelques mots de la Mouazaken. Parce que, précise-t-il, il existe deux types de chassid, celui qui apprend et celui qui comprend. Et plus encore, précise-t-il, la profondeur avec laquelle le sujet a été appris se concrétisera automatiquement, obligatoirement, par l'action concrète qui en suivra. Quoi qu'il en soit, en définitive, la Mouazaken a bien ici expliqué la signification du terme de dibour utilisé à propos de la divinité. Il faut bien comprendre que cela s'inscrit dans la description générale que la Mouazaken vient faire ici du fait que lorsqu'un juif vient à transgresser un tant soit peu une mitzvah, alors cela est comme s'il réalisait un acte d'avodah zara. Alors pour cela, la Mouazaken nous montre à quel point l'unité du monde à Dieu est absolue. Et ainsi, nous comprendrons que toute déviation, aussi fine soit-elle, de la volonté divine, constitue un acte d'idolâtrie, de service étranger. Mais aussi, nous verrons que, finalement, tout service de Dieu, aussi fin soit-il, peut constituer chez chacun d'entre nous une source de joie, de simra très grande et très profonde. Et nous devons garder à l'esprit que, quoi qu'il en soit, quels que soient les événements tristes, insupportables, intolérable que la galoute nous impose, nous devons garder à l'esprit que ceux qui ont encore la force de servir Dieu dans la joie, alors cette joie dans les services de Dieu sera peut-être ce qui déclenchera une fois pour toutes la Géoula. Alors sois donc tout de même confiant, parce que quoi qu'il en soit, la Messie réelle du monde est quoi qu'il en soit l'arrivée imminente du Machiav, la délivrance imminente. Alors, il y a des